bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une série d'articles d'Africa Press. Ils nous montrent un paysage énergétique africain qui bouge beaucoup. Notre mission, si on peut dire, essayer de démêler un peu les fils entre d'un côté le besoin urgent d'électricité pour tout le monde et de l'autre, ben ce virage vers des énergies plus vertes. On va regarder les défis, les innovations aussi et puis les jeux de pouvoir autour des ressources.
Oui, c'est ça. C'est une équation assez complexe en fait. Le continent doit jongler entre une demande d'énergie qui explose, littéralement, des ressources naturelles qui forcément attirent les convoitises mondiales, et puis cette nécessité, cette exigence même, d'une transition énergétique qui soit, bon, à la fois juste socialement et efficace sur le plan écologique.
Pour bien commencer, il y a un chiffre qui frappe dans les sources. 43% de la population africaine, bah, elle vit sans électricité. C'est énorme. C'est quand même le point de départ incontournable, quoi.
Ah oui, absolument. Et ça, c'est un frein majeur pour le développement, évidemment. La conférence africaine sur l'énergie au Cap, elle a beaucoup insisté là-dessus. Il faut garantir un accès fiable, abordable, mais en même temps réduire les émissions. C'est un vrai casse-tête. Parce que historiquement, beaucoup de pays dépendent des fossiles, et puis la population, elle va atteindre 2 milliards d'ici 2040.
2 milliards?
Oui, donc imaginez les besoins. Les investissements nécessaires sont colossaux. On parle de 42 milliards de dollars, juste pour le secteur énergétique.
42 milliards de dollars, c'est vertigineux. Mais bon, face à ça, il y a quand même des initiatives qui émergent, non? Africa Press parle de Ouagadougou au Burkina Faso. Ils ont lancé des taxis 100% électriques, Let's Go, je crois, avec une application, paiement mobile et zéro émission. Ça a l'air très moderne, hein?
Oui, c'est un exemple très intéressant. Concret, ça montre qu'on peut potentiellement combiner modernité et respect de l'environnement. Et ce qui est sympa aussi, c'est que le service y met en avant la culture locale. Les chauffeurs sont burkinabés, il y a des playlists de musique du pays. C'est une vitrine assez intéressante.
C'est prometteur, c'est sûr. Mais est-ce que ce modèle est vraiment scalable? Enfin, je veux dire, vu les défis d'infrastructure électrique dont on parlait juste avant. L'électricité pour recharger tous ces taxis, elle doit bien venir de quelque part.
Mais oui, c'est exactement la question clé. Ça montre bien qu'il faut une approche systémique, quoi. On peut pas juste mettre des voitures électriques sans penser à la production derrière. Et justement, pour alimenter tout ça, ces innovations, la transition en général, il faut des matériaux clés. Et là, ça nous amène à la question cruciale des ressources. Je pense notamment au lithium pour les batteries.
Oui, justement, il y a deux articles qui se concentrent là-dessus. Sur le gisement de lithium de Manono, en RDC, la République démocratique du Congo. Apparemment, c'est l'une des plus grosses réserves inexploitées au monde. C'est bien ça, hein?
C'est ça, une réserve gigantesque. Et du coup, ça suscite une compétition féroce. On voit des poids lourds comme Rio Tinto qui sont sur les rangs, en négociation. Il y a aussi Cobalt Metals, une société qui est soutenue par des noms comme Bill Gates, Jeff Bezos. Eux, ils misent sur l'intelligence artificielle pour optimiser l'exploration. Et tout ça, faut le dire, sur fond d'un imbroglio juridique assez complexe. Ça implique un groupe australien, AVZ Minerals, l'entreprise publique congolaise La Cominière, et puis un géant chinois, Zijin Mining. C'est une vraie guerre du lithium, quoi. Et l'issue, elle est capitale pour la transition énergétique mondiale.
Une guerre du lithium. Et ce lithium, donc, c'est exactement ce qu'il faut pour les batteries des voitures, comme ces taxis à Ouaga. On voit bien la tension, là. Des ressources critiques, extraites en RDC au cœur d'une bataille mondiale, alors que des innovations locales sur le continent même en dépendent.
Exactement. Ça illustre parfaitement ces enjeux de souveraineté et puis de chaîne de valeur sur le continent. La question, c'est qui va vraiment bénéficier de cette manne? Est-ce que ça va rester sur place ou repartir ailleurs?
Et pour financer toute cette transition à grande échelle, c'est un autre défi majeur. Le cas de l'Afrique du Sud le montre bien, non? Un article parle du retrait des États-Unis, du partenariat pour une transition énergétique juste, le GTP. Ça avait été annoncé à la COP26, la conférence sur le climat. C'est un coup dur, ça.
Oui, c'est un coup dur, clairement. Faut voir que l'Afrique du Sud, elle dépend encore à 80% du charbon. C'est une industrie qui fait vivre 90 000 personnes. Donc ce retrait américain, ça complique sérieusement cette idée de transition juste. C'est-à-dire comment on passe au renouvelable sans laisser tous ces gens, ces régions sur le carreau, quoi. Alors bon, il y a d'autres partenaires qui restent, hein, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, mais le besoin de financement, il est colossal. On parle de plus de 80 milliards de dollars rien que pour l'Afrique du Sud d'ici 2027.
80 milliards, ça donne le vertige. Alors, qu'est-ce qui reste comme piste? comme levier de financement?
Les sauces mentionnent plusieurs choses. D'abord, des projets à l'échelle du continent, comme le marché unique de l'électricité. C'est porté par l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il y a aussi les investissements privés. On cite l'exemple de Microsoft en Afrique du Sud. Et puis, il y a les financements régionaux comme ceux de la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Elle finance des projets en Côte d'Ivoire, au Togo. Voilà, il y a plusieurs pistes, mais ça reste un défi.
D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça. On a un besoin énergétique énorme, fondamental. On a des innovations locales, comme au Burkina, qui sont ingénieuses mais qui dépendent des infrastructures. On a cette bataille mondiale pour les ressources clés, comme le lithium en RDC. Et puis ces défis de financement gigantesques, comme on le voit avec le GETP en Afrique du Sud. C'est un tableau complexe.
Vers les ressources. Cette dépendance au financement extérieur. Comment les pays africains peuvent-ils vraiment piloter leur propre transition énergétique ? Comment faire en sorte que ça bénéficie d'abord à leur population, que ça renforce leur autonomie stratégique, sans que ça devienne au fond une nouvelle forme de dépendance, ou que ça creuse encore plus les inégalités à l'intérieur des pays. C'est le grand défi, je crois.